les jardinières.
Un long week-end idéal pour chercher des lapins en chocolat, mais surtout pour jardiner. L'équipe des jardinières est au complet. Bonjour Raphaël.
Bonjour Mylène et bonjour à tous. Et manger et faire du jardinage, deux activités essentielles, j'ai envie de vous dire, en ce week-end de Pâques.
Oui, et ce matin, nous avons le plaisir de recevoir Tom le jardinier. Bonjour Tom.
Bonjour, bonjour.
Tom le jardinier, vous êtes chroniqueur et blogueur. Vous distillez vos conseils en jardinage via les réseaux sociaux sur votre site ou sur votre site, pardon, tomlejardinier.com. Merci d'être avec nous ce matin.
On vous dit bonjour et bienvenue à vous toutes et tous. On se lance dans une heure de jardinage.
7h, 8h, les jardinières.
Dans quelques minutes, Tom nous parlera des serres, des avantages mais aussi des inconvénients. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Tom, c'est le week-end de Pâques, un long week-end pour beaucoup d'entre nous. Quelles tâches effectuer ces jours de congé ?
Eh bien, moi je dis piano, hein. Ils annoncent quand même un peu frais dans les futurs jours, si on regarde bien la météo. Donc un petit peu de prudence. Par contre, tout ce qui peut se faire à l'intérieur, comme les semis pour faire des plantons, tout ça, on peut y aller. On peut aussi désherber son jardin s'il a un peu passé l'hiver ou sans être paillé, sans être retourné, tout ça. Donc il y a un petit peu de désherbage à faire, puis... Tout ce qui ne craint pas le froid peut être fait maintenant, et puis peut-être qu'il faudra protéger son jardin du froid.
Justement, vous le dites, Tom, le froid, on annonce de nouveau des températures assez fraîches. Est-ce que si on a des jardiniers qui ont été un petit peu impatients ces derniers jours et qui ont déjà planté certaines choses et qui ont pris un petit peu d'avance sur le printemps, quels conseils pourriez-vous leur donner ?
Alors, il n'y a pas que les jardiniers, il y a aussi nos arbres fruitiers qui auraient peut-être pu être en fleurs. Et s'il neige ou il fait froid sur ces fleurs-là, ça peut être problématique. Donc, tout ce qu'on peut rentrer, on va le rentrer ou les mettre sur un rebord de muret ou protéger à l'abri du froid. Puis sinon, on va réinstaller les voiles d'hivernage et les voiles de protection qu'on pensait avoir un petit peu oubliées.
Merci beaucoup Tom. Le samedi matin, vous le savez, vous avez la possibilité de poser vos questions jardinage directement à notre professionnel en direct par téléphone. Ça se passe au 0 900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez le faire également par SMS. Vous tapez jardin en espace votre question, vous nous l'envoyez au 939 ou par le formulaire que vous retrouvez sur notre site sous l'onglet émission questions jardinières et vous pouvez même y joindre une photo.
Juste après la pause musicale, Tom le jardinier nous parlera des serres. Comment la choisir et quels sont les avantages et les inconvénients d'en posséder une.
7h, 8h, les jardinières.
La culture sous serre est un excellent moyen de produire de nombreux végétaux. Elle semble idéale pour beaucoup de raisons. Nous faisons le point ce matin en compagnie de Tom le jardinier. On commence tout de suite par les avantages de posséder une serre. Tom, une serre permet un temps de culture prolongé. Vous nous expliquez pourquoi ?
En fait, ce qui est intéressant avec une serre, c'est qu'on maîtrise complètement le climat et toutes les conditions de culture. S'il fait trop chaud, pas assez chaud, on peut soit chauffer, si certaines serres peuvent se chauffer. S'il fait trop chaud, on peut les aérer. Enfin, on maîtrise complètement les conditions de culture. Après, on a aussi, avec cette accumulation, on appelle ça l'effet de serre, environ 2 à 6 degrés. Dépend tout le temps les périodes de l'année de plus qu'à l'extérieur. Donc on est dans des bonnes conditions pour pouvoir produire nos végétaux. Puis on a protège de la pluie, on a de la protection aussi contre certaines formes de givre. Donc on est plutôt en bonne condition pour les végétaux qu'on veut produire dessous.
Mais justement, cette serre aussi, elle permet d'avoir une meilleure productivité sur le plus long terme.
Alors oui, ça permet d'ater un petit peu les légumes. Par exemple, maintenant, on est en pleine période de production. Si on est du côté des légumes, on a un peu des primeurs. On peut avoir des jeunes salades toutes tendres. Moi, j'ai semé quelques graines de fèves aussi dans ma serre. Donc, c'est des légumes primeurs que si je les avais mis à l'extérieur, je pense que j'aurais presque un petit mois de retard sur ces cultures. Donc, ça permet aussi d'échelonner les cultures.
Et un gros avantage encore des serres, c'est la protection contre les maladies et les nuisibles.
Alors oui, Mylène, mais il y en a aussi certains nuisibles, certaines maladies qu'on trouve plus facilement sous serre qu'à l'extérieur. Par exemple, ce qui est le cas des aleurodes, les petites mouches blanches, et puis aussi, par exemple, les araignées rouges qui peuvent être attaquées, par exemple, souvent nos tomates, et puis elles peuvent faire pas mal de dégâts. Par contre, comme c'est un milieu contrôlé, on a aussi l'avantage de pouvoir, peut-être, si on fait une dissémination d'insectes qui va attaquer ces autres insectes, eh ben, on a une atmosphère plus contrôlée que si on les éparpillait un petit peu dans le jardin par-ci, par-là.
Par contre, Tom, on a parlé des avantages, mais il y a aussi quand même quelques inconvénients à avoir une serre, comme par exemple le prix, qui pourrait être quand même un frein à son installation.
Alors oui, une serre, ça coûte un petit peu d'argent. Par contre, pour les plus bricoleurs qui nous écoutent, il y a moyen de faire avec de la récupération, des vieilles fenêtres. On peut déjà rien que faire des châssis. Donc c'est installer des vitres sur des poutres en bois pour pouvoir avoir juste dessous des légumes qui poussent. Mais moi, un gros inconvénient qu'on a un petit peu tendance à oublier, c'est qu'il faut, suivant la taille de la serre, demander un permis d'installation auprès de sa commune ou du canton. Donc c'est aussi un frein avant d'installer sa serre.
Donc bien se renseigner auprès des
autorités.
Merci. Une serre, pour qu'elle soit rentable, doit être bien entretenue. Si ce n'est pas le cas, les végétaux à l'intérieur ne vont pas tenir longtemps.
Alors, surtout au printemps, il y a une grande partie de nettoyage sur ces vitres, parce que le calcaire s'installe sur ces vitres avec les pluies, avec les arrosages, la poussière aussi, des fois quelques algues. Et puis, des fois avec le travail, tout dépend si la serre est faite en bois, si elle est faite avec certains matériaux, les vitres peuvent se casser. On peut aussi, moi ce que j'aime bien faire, c'est installer ce papier bulle. Vous savez qu'on aime recevoir quand on reçoit des paquets puis qu'on fait exploser. Ben moi je l'installe contre certaines vitres de ma serre, on en trouve aussi en rouleau et ça fait un isolant de plus. Donc l'enlever, le remettre, ça c'est aussi des petites tâches qui peuvent être faites en période d'automne et d'hiver pour protéger des plantes encore plus du froid.
On en parlait il y a quelques minutes, les serres, ça protège contre les maladies et les nuisibles, mais bon, on le sait, certaines plantes ont besoin des insectes pour se reproduire, on parle là de pollinisation. C'est possible avec une serre ?
Alors oui, et il faut faire aussi attention, parce que souvent si on a les vitres trop trop propres, on peut avoir des insectes qui viennent se taper dessus, on a aussi les oiseaux qui peuvent... comme on a dans les baies vitrées, poum, un oiseau dans la serre. Ça m'est déjà arrivé. Donc, il faut toujours veiller à ce qu'il y ait une ouverture. Et puis, théoriquement, il n'y a pas trop de problèmes. Ce que moi, je fais aussi de temps en temps, c'est un petit peu secouer les tomates. Parce que comme ça, la pollinisation, elle peut se faire assez facilement.
Merci Tom, on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de cette discussion sur les serres. On va parler entre autres des températures et du choix des serres.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin en compagnie de Tom le jardinier, nous nous intéressons aux serres. Nous avons parlé des avantages et des inconvénients. Tom, lorsque l'on possède une serre, il y a une chose difficile à maîtriser, c'est la température, donc la température à l'intérieur de la serre. Avez-vous des astuces ou des conseils pour aider les jardiniers amateurs à maîtriser ces températures ?
La première chose à faire, c'est bêtement installer un thermomètre. On a tendance à l'oublier, mais on a des valeurs objectives comme ça pour dire « il fait trop chaud, il fait pas assez chaud ». Là, pour vous dire, moi j'ai une serre, on a 700 mètres d'altitude. J'ai eu en l'espace de quelques jours 1,9 degrés le matin, mais en plein après-midi, j'ai quand même eu 42,3 degrés sous serre. Donc, imaginez les végétaux qui sont dessous.
Ils apprécient moyen.
Entre presque gelé et puis être presque bouillanté, c'est un peu compliqué. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir, par exemple, on a des ouvertures automatique. Ces ouvertures automatiques, pas besoin d'une prise électrique, pas besoin. C'est bêtement, vous savez, le système du thermomètre qu'on avait au mercure qui grimpait et qui descendait, c'est ça, avec des espèces de gelées qui sont dans ces ouvertures automatiques, puis ça va se dilater ou se rétrécir en fonction de la température. Donc ça, c'est un truc, ça coûte un peu d'argent, mais alors on peut partir en vacances l'esprit tranquille, on n'est pas obligé de tous les matins se lever pour ouvrir les aérations et puis le soir revenir refermé, c'est des choses très simples à installer et ça vous sauve la vie quand on a une serre.
La serre à mame, par exemple. Il existe aussi d'autres types de serres. Tom, pouvez-vous nous dire quels sont les types les plus courants et quel type choisir plutôt pour nous dans notre région ?
Alors, j'en parlais juste avant, donc il y a les châssis. Et puis après, si on s'oriente plutôt vers les tunnels avec des bâches plastiques des bâches plastiques qui les recouvrent, donc c'est plutôt une forme un peu dôme comme ça. Ce qu'on oublie aussi, c'est que des bêtes plastiques placés sur nos cultures peuvent permettre d'avoir des alternatives à la serre. On se trouve aussi, alors ça, si on a un peu de chance, puis on chine bien dans les marchés aux puces, ces genres de choses-là, on peut trouver des anciennes cloches en verre qui peuvent faire aussi office un petit peu de serre pour protéger des végétaux du froid. C'est très, très facile, par exemple, sur des pieds de tomates quand ils sont encore un peu petits, ou des pieds de salade pour les protéger un petit peu du froid l'hiver.
Alors, vous avez déjà parlé tomates, salades. Quel type de culture se fait sous une serre? On peut tout planter?
Alors, on peut pratiquement tout planter, il faut quand même faire attention. Pour moi, par exemple, on a des printemps de plus en plus doux, ça serait ridicule, par exemple, enfin, de mettre des petits pois qui apprécient avoir du froid et gelé. Ce qui est intéressant de mettre sous serre, c'est ce qui résiste un petit peu au froid, mais pas trop. Enfin, juste de pouvoir prolonger des cultures. Et puis, en été aussi, par exemple, pourquoi pas se faire plaisir avec des melons, avec des pastèques, genre de petites choses-là. Et puis, les tomates, les poivrons, les aubergines, pour augmenter un petit peu leur production, parce qu'on sait qu'elles ne supportent pas très bien le froid la nuit.
Les jardinières.
Deuxième partie des jardinières. Si vous avez manqué la première et notre discussion concernant les serres, vous pourrez nous réécouter sur notre site dans la matinée. Et ce matin, nous sommes en compagnie de Tom le jardinier, blogueur et chroniqueur, à suivre via les réseaux sociaux ou sur son site très complet www.tomlejardinier.com.
Et il est surtout là pour répondre à toutes vos questions jardinage. Alors, vous n'hésitez plus. Vous avez trois possibilités pour nous joindre et poser vos questions. Vous pouvez déjà le faire par téléphone et avoir la chance de parler directement à notre professionnel. Pour ce faire, vous composez le 0 901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Et si vous êtes un peu plus timide, vous pouvez choisir l'option par SMS. Vous tapez jardin, un espace suivi de votre question au 939 ou par le formulaire avec la possibilité d'y joindre une photo. Ça se passe là sur notre site internet sous l'onglet émissions questions aux jardinières.
Et nous avons reçu une question qui nous dit: Tom, pour vous, bonjour, j'ai deux Diefenbachia et ils perdent toujours les feuilles du bas. Que faire pour éviter ça? Merci et bonne journée.
Alors, chez les Diefenbachia, c'est un peu normal qu'ils perdent leurs feuilles en bas. Alors trop, ça serait peut-être inquiétant, mais c'est quand même des plantes qui sont grimpantes un petit peu. Elles vont faire des longues vrilles et faire des fleurs au bout de ces vrilles. Donc, ce qui peut être fait, c'est bien pincer, bien peut-être un petit peu en cette période, les rabattre un petit peu. Et puis là, on va avoir de la lumière qui vient en bas de la plante. Mais il faut se dire que c'est normal qu'une plante, elle, quand elle n'a plus de lumière, ses feuilles sont des capteurs de photosynthèse, et ben elle tombe parce qu'il n'y a plus de lumière et elle équilibre un peu son feuillage.
Vous avez dit rabattre les feuilles, comment ça se passe ?
Ben, on pince tout ce qui pourrait partir déjà un petit peu loin et on le fait sur... deux feuilles, où c'est que ça va plutôt partir vers l'extérieur pour donner un beau port à la plante.
Ah, on coupe ?
Oui.
Ah, d'accord. Elle a compris. Merci, Tom.
Ding, 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 ding. Merci beaucoup, Tom. Autre question reçue par SMS. Bonjour, la fleur arnica pousse-t-elle au Jura ? Merci.
Alors, la fleur arnica...
Alors déjà, peut-être, qu'est-ce qu'une fleur arnica, déjà, pour les gens qui ne connaissent pas ?
Alors, l'arnica, elle est souvent utilisée en parapharmacie pour soigner les petits bobos, les hématomes et ce genre de choses-là. C'est une plante qui est pas mal utilisée. Elle pousse, alors au Jura, pas tellement, mais on peut la semer, l'avoir dans son jardin comme ça. Mais si on va la récolter en nature, il faut bien savoir qu'elle est protégée pratiquement dans toute la Suisse. Donc, je vais pas vous dire où elle se trouve.
Et puis, on peut la semer, si vraiment oui, on l'a vu à la maison.
Regardez avec un pépiniériste aussi, peut-être qu'il va... un jardinier, une jardinerie, peut-être qu'il va vous trouver des plants. Mais on évite un petit peu d'aller la récolter dans la nature.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Nous sommes ensemble encore un bon gros quart d'heure. On attend vos questions. Raphaël, on va peut-être répéter comment nous joindre.
Exactement, 0 901 70 20 20. Là, vous composez les petits numéros sur votre clavier et vous parlez directement à Tom le jardinier qui se fera un plaisir de répondre à votre question en direct. Vous pouvez le faire par SMS. Vous tapez jardin, un espace suivi de votre question que vous nous envoyez au 939 ou par le formulaire avec la possibilité de joindre une photo. Ça se passe sur notre site internet. Vous allez sous l'onglet émissions, questions aux jardinières.
On va enchaîner avec les questions. J'ai acheté des plantons de pensée vivace et j'aimerais les planter dans un bac devant chez moi. Est-ce qu'elles vont refleurir l'année prochaine, même si elles sont dans un bac?
Alors oui, elles vont probablement même aussi un petit peu se ressemer, hein, parce que ça fait des petites graines qui se ressèment assez facilement. Par contre, il faut bien les entretenir, bien les arroser, même si elles sont un petit peu pas très très belles. Et puis les pensées, même vivaces, je conseille plutôt de les acheter, de les planter au mois d'octobre l'année prochaine. On a un petit peu de retard là, parce qu'elles auront un meilleur enracinement et elles vont encore mieux fleurir au printemps. Quand on les plante à l'automne.
Et puis si on aimerait mettre des plantes dans une plate-bande, est-ce qu'on peut aller, Tom, en forêt, genre chercher une fougère?
Alors, en forêt, on va éviter quand même de prélever tous les végétaux, parce que déjà, quand un horticulteur, un professionnel, va les cultiver en pot, le système racinaire, il est adapté presque, il est déjà façonné pour pouvoir avoir des plantes qui reprennent dans nos jardins. Quand on a quelque chose comme des fougères en forêt, on va éviter déjà pour ne pas déranger trop les écosystèmes. Et puis, c'est des plantes qui sont peut-être pas forcément adaptées à un repiquage, à une replantation dans son jardin.
Merci Tom. On va parler de cassis. Une personne a des cassis en pot depuis 2 ans. Enfin, il y a 2 ans, elle a eu pas mal de fruits, mais rien l'été dernier. Qu'est-ce que peut faire cette personne pour espérer avoir des fruits cette année?
Alors, ça peut dépendre de plein de facteurs. La taille, est-ce qu'il y a une taille trop forte, pas assez forte? Est-ce qu'il a peut-être gelé sur ses fruits, sur ses fleurs? Et ça peut dépendre de plein de choses. Ce qui peut aussi être, c'est aussi une forme d'alternance ou une plante qui a faim. Donc, ce qu'il faut faire, c'est un petit peu prendre soin de la plante, l'arroser, éventuellement la protéger si il commence à faire froid, et puis rajouter un petit peu de compost à son pied, et ça, c'est parfait pour la reprise de la plante.
Est-ce qu'on peut faire comme pour une plante d'intérieur, un rempotage?
Alors, si elles sont en pot, oui, effectivement, on peut faire un rempotage où on va enlever un petit peu la terre, on va enlever une grosse quantité de terre pour en mettre de la meilleure, de la plus fraîche. Rajouter, là je ferai un mélange avec un tiers de compost, un tiers de terreau de jardin, de terre de jardin et un tiers de terreau pour avoir un truc bien nourrissant, bien riche pour la plante.
Une question qui va sûrement intéresser beaucoup, beaucoup de nos auditeurs, puisque cette personne nous écrit, nous sommes envahis de lierre, comment faire pour s'en débarrasser et qu'ils ne reviennent pas?
Eh bien, un peu, soit de l'huile de coude, et puis y aller à la bêche, et soit il y a une technique, si le lierre il est dans une situation où c'est que c'est pas une énorme surface, on peut y aller avec de la bâche noire, la laisser pratiquement pendant 6 mois sur le terrain, et comme tous les végétaux ils ont besoin de lumière pour pouvoir faire de leur réserve, leur force, cette bâche noire va les occulter, empêcher la photosynthèse, et puis théoriquement il ne devrait plus y avoir de lierre après.
On me demandait avec le lierre, c'est un peu ces plantes grimpantes qui vont partout. Si on la coupe et on la met dans le compost, est-ce qu'il y a un risque de propagation?
Alors, théoriquement, dans le compost, pas, parce qu'un bon compost va chauffer et ça va nuire à la plante. Mais si on a un compost un petit peu plus ménager comme on a chez nous, il ne chauffe jamais dans les conditions qu'un vrai compost de professionnel du compost dans les conditions-là. Mais il n'y a pas de souci, vous pouvez le donner à votre commune dans les ramassages des déchets verts sans problème.
7h, 8h, les jardinières.
Dernière partie des jardinières. Ce matin, Tom, vous nous avez parlé des serres et également répondu aux questions reçues. Et d'habitude, en fin d'émission, on vous demande quoi faire au potager. Mais aujourd'hui, on bouscule nos habitudes parce qu'en plus d'être blogueur et chroniqueur, vous voilà auteur. Tom, dans quelques jours, vous sortez votre premier ouvrage de jardinerie intitulé « Un potager au naturel ». Alors, je vous laisse, Tom, le plaisir de nous présenter votre bébé, votre livre.
Alors, pendant tout cet hiver bien au chaud, j'ai pris le temps d'écrire un livre qui fait quand même 208 pages, découpé en 4 chapitres. Un premier chapitre où on apprend où installer son potager, parce que il s'installe essentiellement sur les légumes, donc comment installer son potager. La deuxième partie, c'est vraiment les gestes de base, c'est et les choses à savoir de base avant de quand on a son potager, les bons outils à avoir, comment est-ce qu'on fait des semis. Et ensuite, mois par mois, c'est un peu une forme de liste des choses à faire, une to-do list. On va presque pouvoir mettre la petite coche pour dire ça c'est fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Et on est sûr de rien louper. Et après, je vous donne chaque légume a une petite fiche. Puis on ne parle pas tout de la botanique, tout genre de choses. Là, il y a quelques petites lignes, mais vraiment le strict nécessaire. Pour vous parler des gestes essentiels pour réussir ces légumes. Je me suis un petit peu inspiré d'un livre de recettes où on voit presque comment couper une carotte, comment éplucher des oignons. Et bien là, sur les légumes, c'est geste après geste pour vous impérativement que vous réussissiez les légumes. Et il y a quelques petites recettes qui se sont glissées parmi le livre.
Alors, le livre n'est pas encore sorti en librairie, sera disponible le 7 avril. Vous l'avez, vous, quand même, là, dans les mains. Moi, j'ai pu le voir en vrai. On va prendre au hasard un légume de la fin du livre que oui. Vous allez nous présenter. Qu'est-ce que vous avez envie de nous montrer?
Alors, on va par exemple parler des épinards, qui sont un légume qui donne de la force, soi-disant. Hein. Mais là... L'épinard, donc on a une belle image de fond que j'ai tout fait dans le livre, hein, des images jusqu'au texte et au graphisme, et on va avoir 3 ou 4 gestes sur l'épinard, le semis, comment est-ce qu'on va le récolter, comment est-ce qu'on va l'entretenir pour avoir vraiment tout l'aspect des clés de la réussite, mais on va aussi parler du balcon. Comment, dans les petits espaces en pot, la culture en pot, comment avoir des épinards, les éventuels problèmes et maladies, puis quelques astuces quand on se retrouve peut-être à avoir semé trop d'épinards, on en a tout d'un coup plein d'épinards dans notre cuisine, comment est-ce qu'on le conserve, dans quelles conditions, est-ce qu'on le met au frigo, est-ce qu'on le met à la cave, est-ce qu'on peut le blanchir et le mettre au congélateur, par exemple, pour le cas de l'épinard.
Tom, vous nous donnez envie avec ce livre qui va paraître d'ici quelques jours. Alors moi, j'ai envie de vous demander comment et où se procurer ce livre pour avoir tous vos bons conseils.
Alors, il va se trouver dans toutes les bonnes librairies. Il a été édité aux éditions Albin Michel et le prix, il est aux alentours de 28 francs suisses.
Et puis, bien sûr, on peut le commander, le précommander déjà via votre site tomlejardinier.com. Vous écrivez tout ça en un mot et puis on peut trouver sur votre site comment le commander. Tom, comment on se sent à quelques jours de l'arrivée de son premier livre?
Alors, il y a un petit peu de stress pour l'accueil qui va en être fait, mais on est déjà très content avec la maison d'édition parce que grâce à la communication qui a été faite sur les réseaux sociaux, grâce aussi à un petit peu l'engouement qui s'est créé autour du livre, on a déjà quelques chiffres qui sont assez chouettes du retour qu'on a déjà pour le moment.
Bon, bah Tom, on vous souhaite un bon accouchement. C'est ce qu'on peut vous souhaiter. Et puis, bah, on rappelle que vous êtes également blogueur, chroniqueur et donc maintenant auteur. On peut vous suivre via les réseaux sociaux ou sur votre site tomlejardinier.com. On vous remercie d'avoir été avec nous. Et puis, tomlejardinier.com est bientôt en librairie. Attention, on déconne plus maintenant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et on vous souhaite un bon week-end.
Bon week-end.
Les jardinières vous donnent rendez-vous samedi prochain dès 7h pour de nouvelles aventures au potager en compagnie d'Olivier Ribaud, pépiniériste à Queuve. Et puis n'attendez pas samedi prochain pour nous envoyer vos questions. Faites-le en tout temps, soit par SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question. Message à envoyer au 939 ou via le formulaire disponible sur notre site. À samedi prochain, Raphaël.
Avec un immense plaisir, ma chère Mylène.
Et ne mangez pas trop de chocolat.
Hein. C'est pas mon genre, c'est pas du tout le genre de la maison.
Bon week-end à toutes et à tous, joyeuses fêtes de Pâques et comme d'hab, prenez soin de vous.
7h, 8h, les jardinières.